Bonjour mes frères et sœurs, nous allons faire une lecture dans Colossiens chapitre 1, versets 15 à 20. Colossiens 1, 15 à 20. Le Fils, donc Jésus, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui, même aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Amen. Jésus, je te demande de m'aider à apporter ce message dans la paix et avec le secours de ton Saint-Esprit pour le bien de chacun et de chacune. Amen. Mes frères et sœurs, le Seigneur m'a fait comprendre de grandes choses. Nous venons de lire un texte absolument magnifique. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Nous avons lu aussi qu'il est la tête du corps, qui est l'Église. Le Seigneur a ouvert mon esprit et m'a fait comprendre qu'en fait, alors, l'Église est très vieille. Elle est le corps de Christ, qui est lui-même le premier-né de toute la création. C'est donc pour lui et son corps, qui est l'Église, que le monde a été créé, que tout a été créé. Voilà pourquoi l'apôtre dit « Tout est à vous, et vous êtes à Christ ». Tout, ce ne sont pas que les bonnes choses. Tout, ce sont aussi les souffrances infligées à Jésus. Souvenez-vous, qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus que tu persécutes. Ce qui nous arrive, lui arrive. Et en vérité, ce qui nous arrive et qui nous fait souffrir est dirigé contre lui. Alors souffrons avec dignité, mes frères et sœurs. Paul disait, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, c'est-à-dire pour les membres du corps de Christ, et je supplie dans ma vie, je complète dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. » Trouvez ça dans Colossiens 1, 24. Vous voyez, c'est dans le même chapitre. Il rajoute en son corps les souffrances qui manquent à Christ, l'Église. En vérité, nos souffrances terrestres, qui sont aussi celles de Jésus, ces souffrances accomplissent ce qui reste à faire pour le douloureux enfantement de l'Église, du corps de Christ. Mes frères et sœurs, ceux qui vous persécutent, persécutent Jésus. Ceux qui vous accusent, accusent Jésus. Ceux qui vous volent, volent Jésus. Ceux qui vous trompent, trompent Jésus. Ceux qui vous chassent de votre pays, je pense à tous ces gens, ces chrétiens qui sont chassés de leur pays, qui sont obligés de partir à cause d'un régime fou. Ceux qui vous chassent de votre pays chassent Jésus. De même, ceux qui vous chassent de vos maisons chassent Jésus. Les démons qui vous attaquent attaquent Jésus. Les maladies qui vous affligent sont sont en fait une attaque contre Christ lui-même. Comprenez bien cela. Vous qui êtes dans le corps de Christ, ne prenez pas le mal qui vous arrive d'une façon personnelle. Le diable veut vous culpabiliser, vous disant que c'est parce que vous avez péché, que vous êtes tombé malade, ou que vous avez fait une erreur, alors voilà, et vous êtes arrivé ceci, vous êtes arrivé cela. Si vous êtes en Christ, tout est bien. Votre souffrance, elle est voulue par Dieu. C'est un peu difficile à admettre des moments, hein. C'est contre Jésus-Christ que tout cela vous est fait. Et comme Paul, vous pouvez dire, je me réjouis maintenant dans mes souffrances, car je rajoute en moi-même les souffrances qui manquent à Christ. La version seconde de 1967 disait, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair pour son corps qui est l'Église. La version Chouraki disait, maintenant je me réjouis dans les souffrances à cause de vous, et j'accomplis ce qui manque aux tribulations du Messie dans ma chair pour son corps qui est la communauté. Parce que nous mettons nos talents au service de l'œuvre de Dieu, alors nous sommes joyeux de voir l'Église grandir, de la voir se fortifier, mais en même temps, cela occasionne des souffrances. Car rien sur la terre n'attise autant la haine que l'Église de Jésus-Christ, le peuple de Dieu. C'est la même chose que pour Israël, le peuple de Dieu. Jésus est venu en chair pour être l'image du Dieu invisible, et de nos jours, il est la tête de son corps, un corps visible sur la terre. Son corps est visible sur la terre, c'est l'Église dont vous êtes membre. Quand quelqu'un vous frappe, c'est Jésus qui le frappe. Alors comme Jésus vous le dit, et comme je vous l'ai dit il y a quelque temps, montrez-lui votre autre joue. Parce que la personne qui vous frappe vous voit vous, avec, il est très possible, vos défauts. Elle justifie ainsi les attaques qu'elle mène contre vous, mais en fait c'est Jésus qu'elle persécute. Alors montrez-lui votre autre joue, montrez-lui Jésus-Christ qui vit en vous. C'est Jésus la tête. Il va prendre soin de son corps et il va le défendre. En jetant vos adversaires humains ou spirituels à terre, comme il a jeté Saul de Tarse à terre. Je suis Jésus que tu persécutes. Vous voyez, mes frères et sœurs, c'est bien de confesser nos fautes, c'est bien d'avoir reçu de Dieu cet esprit de repentance qui fait que nous confessons nos fautes, et c'est bien. Mais il ne faut pas oublier de supplier pour la justice, afin d'en obtenir une part pour vous et pour votre famille. Il vous faut prendre ça au sérieux, mes frères et sœurs. Sinon, comment, le jour venu, pourrez-vous vous asseoir à la droite du Père avec tous ceux qui ont mené le bon combat de la foi? Tous ces gens qui nous ont précédés et qui ont souffert le fouet, la prison, la croix, les fauves, la torture, tout ça à cause du nom de Jésus-Christ. Et tous ceux qui souffrent actuellement à cause du nom de Jésus-Christ. Tous ceux-là auront le privilège, à ce qu'il est écrit, nous aurons part à tous les trésors de Dieu, exactement comme Jésus-Christ. Et tout ce que Dieu donne à son Fils sera aussi nôtre. Oui, si maintenant nous sommes unis à lui, qui est la tête, si nous portons ses souffrances, nous serons aussi à ses côtés, associés à sa gloire dans le monde nouveau. Romains 8, 7. Il faut avoir conscience de cela, mes frères et sœurs, profondément. Si, quelle que soit ta souffrance, mon frère, ma sœur, si tu es maintenant uni à lui, La souffrance que tu portes est sa souffrance. Celle qui manquait à la sienne quand il était sur terre dans un corps de chair. Maintenant, étant uni à lui, tu es membre de son nouveau corps qui est l'Église. Et tes souffrances, eh bien, considère que ce sont les siennes. Supporte-les avec dignité. Et puis aussi, implore son nom pour en être délivré, parce que c'est ton droit divin. Tu as le droit. Paul l'a fait. Et il a arrêté de supplier d'être délivré quand il a enfin entendu Dieu qui lui a dit « Ma grâce te suffit ». Mais tant que Dieu ne te dit pas « Ma grâce te suffit », tu as le droit, c'est ton droit de prier pour être délivré de cette souffrance. Frappez, on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez. Criez à Dieu. Criez à Dieu, mon frère, ma sœur, il te répondra. D'une manière ou d'une autre, mais il te répondra. Il y aura des niveaux de gloire différents pour chacun. Je vous l'ai souvent dit, je vous l'ai souvent enseigné. Et tout cela dépendra du comportement de chacun d'entre nous au sein de la souffrance. La vie sur cette terre, c'est pas un pavé de roses, c'est un chemin de souffrance. Je voudrais vous faire une lecture d'une vision. Un jour, un homme de Dieu a eu cette vision. Il a vu l'Église lui apparaître sous les traits d'une dame, d'une vieille dame. Et il ne comprenait pas qui elle était, et cela lui a été révélé dans la vision. Et tout à coup, cette dame a levé un bâton étincelant, et elle dit « Vois-tu une grande chose ?» Et l'homme répond « Je ne vois rien. » « Et quoi ? Tu ne vois pas en face de toi une grande tour qu'on bâtit sur les eaux avec des pierres carrées étincelantes ?» La tour était bâtie en carré par 6 jeunes gens qui étaient venus avec elle. Des myriades d'autres hommes apportaient des pierres, les uns du fond de l'eau, les autres de la terre. Et il passait aux 6 jeunes gens ces pierres. Eux, ils les recevaient et ils bâtissaient. Toutes les pierres tirées du fond de l'eau, ils les plaçaient dans le bâtiment car elles s'ajustaient et cadraient à la perfection aux jointures avec les autres pierres. Et elles se soudaient si fortement les unes aux autres que les jointures entre elles n'étaient pas apparentes. L'architecture de la tour la faisait paraître bâtie d'un seul bloc. Parmi les autres pierres qu'on apportait de la terre ferme, les unes étaient éliminées, les autres entraient dans la construction, d'autres encore étaient brisées et jetées au loin de la tour. D'autres pierres en grand nombre gisaient tout autour de la tour et on ne les utilisait pas à la construction. Certaines d'entre elles étaient couvertes de lichen, d'autres avaient des fissures, d'autres avaient été tronquées, d'autres encore, blanches et arrondies, ne pouvaient pas s'adapter à la construction. Je voyais d'autres pierres jetées loin de la tour, atteindre la route, ne pas s'y arrêter, mais rouler depuis la route sur des chemins impraticables. J'en voyais d'autres tomber dans le feu et brûler, d'autres encore qui tombaient près de l'eau sans parvenir à rouler jusqu'à l'eau, malgré leur envie d'y rouler et d'y pénétrer. Après m'avoir montré cela, elle voulut s'en aller. Je lui dis « À quoi me sert d'avoir vu ces choses si je ne connais pas ce qu'elles signifient ?» En réponse, elle me dit « Tu es un homme curieux à vouloir connaître tout ce qui concerne la tour. » « Oui, dis-je, afin de l'annoncer aux frères, qu'ils en soient joyeux. » Et qu'à entendre ce récit, ils connaissent Dieu dans la plénitude de sa gloire. Elle me dit, beaucoup l'entendront, mais après l'avoir entendu, certains d'entre eux se réjouiront, d'autres pleureront. Mais même ces derniers, s'ils l'entendent et se repentent, eux aussi se réjouiront. Écoute donc les paroles de la tour, car je vais tout te révéler. Et ne m'importune plus à propos de révélations, car celles-ci ont un terme, elles sont accomplies. Mais tu ne cesseras pas de me demander des révélations, tu es impudent. La tour que tu vois se bâtir, c'est moi, l'Église. C'est elle que tu as vue maintenant et auparavant. Ce que tu veux donc à propos de la tour, demande-le, et je te le révélerai, afin que tu te réjouisses avec les saints. Et je lui dis, puisque tu m'as désormais jugé digne de me faire toutes les révélations, fais-moi les révélations. Elle me dit, ce qui est possible de te révéler te sera révélé. Seulement, que ton cœur soit tourné vers Dieu et ne mets pas en doute ce que tu verras. Je lui demandais, pourquoi la tour a-t-elle été bâtie sur les eaux? Je t'ai dit, dit-elle, et cela précédemment, que tu es curieux des Écritures et que tu les interroges avec soin. Par conséquent, en cherchant, tu trouves la vérité. Pourquoi donc est-ce sur les eaux que la tour a été bâtie? Écoute-le. Parce que notre vie, c'est par l'eau qu'elle a été sauvée et qu'elle sera sauvée. La tour a été assise sur ses fondements par la parole du tout-puissant et glorieux nom de Jésus. Elle est maintenue par le pouvoir invisible du Maître. En réponse, je lui dis, mais grande et admirable est cette chose-là, mais les six jeunes gens qui bâtissent, qui sont-ils? Ce sont les saints anges de Dieu, les premiers à avoir été créés, et à qui le Seigneur a confié toute sa création, à développer et à bâtir, et la mission d'être maître de la création tout entière. C'est par eux, donc, que sera achevée la construction de la tour. Et les autres qui apportent les pierres, qui sont-ils? Ce sont aussi de saints anges de Dieu, mais ces six-là leur sont supérieurs. Quand donc sera achevée la construction de la tour, alors tous ensemble, transportés d'allégresse, tout autour de la tour, ils glorifieront Dieu, qui a été achevée la construction de la tour. Je demandais, je voudrais connaître la finalité et le pouvoir des pierres. Quel sens leur est attaché? En réponse, elle me dit, ne va pas te juger digne entre tous de cette révélation, car d'autres sont avant toi et meilleurs que toi. C'est à eux que devraient être révélées ces visions, mais pour que soit glorifié le nom de Dieu, c'est à toi qu'elles ont été révélées et seront révélées en vue des indécis, de ceux qui délibèrent dans leur cœur se demandant si cela existe ou n'existe pas. Dis-leur que tout cela est vrai et qu'il n'y a rien en dehors de la vérité, mais que tout est ferme, sûr et bien assis sur ses fondements. Écoute maintenant ce qui concerne les pierres qui entrent dans la construction. Les pierres carrées, blanches, qui s'apparient bien à leur jointure, ce sont les apôtres, les évêques, les diacres et les diaconesses qui ont marché selon la sainteté de Dieu et qui ont exercé leur ministère d'évêque, de docteur, de diacre, avec pureté et sainteté, au service des élus de Dieu. Les uns ont trouvé le repos, les autres sont encore en vie. Et toujours, ils se sont accordés entre eux, ont maintenu entre eux la paix et se sont écoutés les uns les autres. C'est pour cela que, dans la construction de la tour, leurs jointures sont bien appareillées. Et les pierres qu'on tire du fond de l'eau, qu'on place sur la construction et qui s'apparient bien à leur jointure aux autres pierres déjà imbriquées dans la construction, qui sont-ils? Qui sont-elles? Ce sont ceux qui ont souffert à cause du nom de Dieu. Et les autres pierres, celles qu'on apporte de la terre ferme, je veux savoir qui elles sont. Elle dit, celles qui entrent dans la construction sans être taillées, ce sont ceux que le Seigneur a approuvés parce qu'ils ont marché dans la droite ligne du Seigneur et qu'ils ont suivi sans détour ses commandements. Et celles qu'on amène et qu'on pose dans la construction, qui sont-elles? Des nouveaux dans la foi et fidèles, ils reçoivent des anges des consignes pour faire le bien. Ils reçoivent des anges des consignes pour faire le bien. Il n'a pas été trouvé en eux de perversité. Et celles qu'ils éliminaient et jetaient, qui sont-elles? Ce sont ceux qui ont fauté et qui veulent faire pénitence. C'est pour cette raison qu'ils n'ont pas été jetés loin de la tour, parce qu'elles seront utiles à la construction, pourvu qu'ils se repentent. Ceux donc qui sont prêts à faire pénitence, s'ils se repentent, seront fermes dans la foi, pourvu qu'ils se repentent maintenant, dans le temps que se bâtit la tour. Mais si la construction est achevée, ils n'ont plus de place, ils seront rejetés. Ils n'ont plus qu'une chose à faire, se tenir près de la tour. Tu veux savoir pour les pierres qu'on brise et qu'on jette loin de la tour? Ce sont les fils d'iniquité. Ils ont eu la foi dans l'hypocrisie et dans toute perversité, et toute perversité ne s'est pas éloignée d'eux. C'est pour cette raison qu'ils n'obtiendront pas le salut, parce qu'ils sont inutiles à la construction, à cause de leurs vices. C'est pour cette raison qu'ils ont été brisés et jetés au loin par la colère du Seigneur, parce qu'ils avaient suscité sa colère. Parmi les autres que tu as vus, un grand nombre gisant au sol sans entrer dans la construction. Celles qui sont couvertes de lichens, ce sont ceux qui ont connu la vérité, mais n'ont pas persévéré en elle, et qui n'entretiennent pas un commerce étroit avec les saints. C'est la raison de leur inutilité. Et celles qui ont des fissures, qui sont-elles? Ce sont ceux qui, dans leur cœur, gardent de l'animosité les uns contre les autres et ne sont pas en paix entre eux, quoiqu'ils gardent un masque de paix. Et quand ils se séparent les uns des autres, leurs vices persistent dans leur cœur. Ce sont là les fissures que présentent ces pierres. Les pierres tronquées, ce sont ceux qui ont la foi et qui, pour l'essentiel, se tiennent dans la justice, mais qui conservent en eux des parcelles d'iniquité. Voilà pourquoi elles sont mutilées et ne sont pas entières. Et les pierres blanches et arrondies, qui ne peuvent pas s'adapter à la construction, qui sont-elles? En réponse, elle me dit, jusqu'à quand, sot et stupide que tu es, vas-tu poser des questions sur tout sans rien comprendre? Ce sont ceux qui possèdent la foi, mais qui possèdent aussi les richesses de ce monde. Quand survient une épreuve, à cause de leur richesse et de leur occupation, ils renient leur Seigneur. Et en réponse, je lui dis, mais quand seront-ils donc utiles à la construction? Quand on aura entaillé la richesse qui conduit leur âme, alors ils seront utiles à Dieu. De même, en effet, qu'une pierre ronde, si elle n'est pas taillée, et qu'aucun fragment d'elle-même n'est éliminé, ne peut devenir carré. De même, les riches dans ce monde-ci, si on ne taille pas dans leur richesse, ne peuvent devenir utiles au Seigneur. Apprends à connaître d'abord à partir de toi-même. Quand tu étais riche, tu étais inutile. C'est maintenant que tu es utile et profitable à la vie. Devenez utile à Dieu. Toi-même, tire la leçon de ces mêmes pierres. Les autres pierres que tu as vues jetées loin de la tour, tombées sur la route et roulées de la route sur des chemins impraticables, ce sont ceux qui ont eu la foi, mais qui, à cause de leur indécision, abandonnent la voie qui était la leur, celle de la vérité. Ils se figurent sans doute pouvoir trouver une meilleure voie, et ils errent et ils sont malheureux à marcher sur des chemins non tracés. Celles qui tombent dans le feu et qui brûlent, ce sont ceux qui sont définitivement éloignés du Dieu vivant. À leur cœur n'est pas montée l'idée de faire pénitence à cause de leur désir de débauche et des vices qu'ils ont commis. Et les autres qui tombent près des eaux sans parvenir à rouler jusqu'à l'eau, veux-tu savoir qui elles sont? Ce sont ceux qui ont entendu la parole et qui voulaient être baptisés au nom du Seigneur. Puis, quand vint à leur mémoire la sainteté de la vérité, ils changent d'avis et s'en vont suivre à nouveau le cortège de leurs désirs pervers. Et elle achève ainsi l'explication de la tour. M'étant enhardi, je lui demandai encore à propos de toutes ces pierres qui avaient été éliminées et qui ne pouvaient s'adapter à la construction, s'il existait pour elles une pénitence, un moyen de trouver place dans cette tour. Elles ont, dit-elle, le moyen de faire pénitence, mais elles ne peuvent pas s'agencer à la tour. Elles s'agenceront à un autre lieu, beaucoup plus petit, et cela, lorsqu'elles auront été mises à l'épreuve et qu'elles auront acquitté le nombre de jours dus pour leur faute. C'est pour cette raison qu'elles seront changées de place, parce qu'elles ont eu part à la parole du juste. Et c'est au sortir de leur épreuve, à ce moment-là, qu'il leur arrivera d'être déplacés, pourvu que monte à leur cœur la pensée des turpitudes qu'elles ont commises. Mais si elles ne montent pas à leur cœur cette pensée, elles ne seront pas sauvées, en raison de la dureté de leur cœur. Quand je finis de l'interroger sur toutes ces pierres, sur tous ces points, elle me dit « Veux-tu savoir autre chose ?» Plein du désir que j'étais de contempler, je me réjouis de voir. Elle, m'ayant fixé des yeux, elle me sourit et me dit « Je vais m'arrêter là, je ne vais pas vous lire la suite de cette vision. » Déjà, il y a beaucoup de choses à méditer là, n'est-ce pas? Beaucoup de choses à méditer. Nous devons être très sérieux, mes frères et sœurs. Certains cherchent à fixer la date du retour de Jésus. Nous, nous devons au contraire chercher à être parfait comme il est parfait. Voilà, je voulais vous parler de cela, de l'utilité de vos souffrances, des attitudes que vous devez, que nous devons avoir au sein de la souffrance. N'oubliez pas, vous êtes le corps de Christ et quand vous souffrez, c'est Christ qui est visé. Alors souffrez dignement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde l'intelligence pour comprendre toutes ces choses et qui vous aide. Réécoutez ce message, réécoutez de nouveau cette vision. Si vous êtes bien sage, je vous dirai un jour d'où elle provient. Je vous le dirai. Mais pas tout de suite. Je vous laisse d'abord prier et réfléchir. Que Dieu vous bénisse. Au revoir mes frères et sœurs. Amen.